I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter AI, un podcast avec encore de vrais gens dedans. Et j'en veux pour preuve la présence sur la mezzanine du poste général de nos deux partenaires, Olivier Vigneault et Sébastien Oudus, respectivement président et pas président de BETC Digital.
Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent.
Il y a également Félix Barès, notre homo sapiens journalisticus barbu.
Bonjour.
Sans oublier notre invité, William Hinhin, un humain prestigieux dont je vous révélerai l'identité plus tard, et ceci afin de créer l'envie, une sorte de suspense. Bonjour William Hinhin.
Bonjour.
Le sujet du jour étant...
Les magasins du Turfu.
Magasin. Nom masculin. Endroit où l'on conserve des marchandises. Magasin d'armes, d'explosifs. Synonyme entrepôt.
Et Turfu ?
Le Turfu, c'est le futur. En langage de Jones.
Ah, ok. Sympa. Envoyez la pub.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce au magasin sans humain.
Sans humain ? Mais...
On est des humains !
Allons, pour toi, ça ne change rien !
Rassurez-vous, les magasins sans humain sont 100% pour vous, les humains, mais également 100% automatiques et autonomes.
Plus besoin de faire ses queues interminables à la caisse.
Je scanne mon portable à l'entrée et hop, je n'ai plus rien à payer.
Les magasins sans humain ne dorment jamais, ne tombent pas malades et n'ont pas de vacances ou de jours fériés.
Ici, personne n'essaie de me vendre quelque chose dont je n'ai pas besoin ou envie.
Et même si vous êtes filmé, pour votre sécurité, les magasins sans humain respectent votre vie privée et votre intimité.
Il y a même des cabines d'essayage virtuelles.
Avec les magasins sans humain, vos courses deviennent plus humaines et simples, comme bonjour.
Et en plus, on n'a même pas à dire bonjour.
Voulez-vous en savoir plus ?
Alors, Sébastien, est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible ?
Alors oui, Vincent, c'est crédible. D'abord parce que les gens, quand on les interroge et quand on parle d'expérience client, aujourd'hui, ils veulent des expériences les plus fluides et les plus simples possibles, sans obstacles sur leur parcours. Donc c'est lié à beaucoup de gens qui ont réinventé l'expérience client, comme des Uber, des Airbnb, les exemples qu'on cite assez souvent. Et en ce qui concerne les magasins et les supermarchés, on a beaucoup parlé récemment de Amazon Go, qui a un peu lancé la tendance et qui devrait ouvrir une quinzaine de supérettes d'ici la fin de l'année, qui sont sans humains, donc il n'y a pas de passage en caisse, et donc je rentre et je suis scanné par des caméras qui scannent également tout ce que je prends dans mon panier, et je sors en ayant payé directement sans avoir sorti mon porte-monnaie et sans avoir parlé à personne. Ça existe aux États-Unis, il y a pas mal de marques qui se sont lancées là-dessus, et ça existe aussi beaucoup en Chine, notamment parce que le paiement par mobile est une pratique extrêmement populaire en Chine. Donc il y a de plus en plus de marques qui travaillent sur ce sujet. Donc pour une fois, Vincent, la publicité que tu nous proposes est très crédible.
J'en suis ravi. Olivier ?
Alors, elle est très crédible, en effet, et vraiment, je salue la performance, Vincent. Néanmoins, elle pose la question de l'humain, parce que l'humain est au cœur, évidemment, de nos préoccupations, de nous, êtres humains, et elle pose la question fondamentale de bah, est-ce que vraiment on a envie d'un lieu qui soit des lieux de vente sans humain du tout ? Parce que certes, c'est très pratique, et donc les gens nous le disent, voilà, ils ont envie d'expériences sans couture, mais en même temps, ils nous disent que, et c'est le cas par exemple aujourd'hui pour 70% des Américains, pour eux, le magasin physique reste le point de contact préféré pour faire leur shopping, parce que c'est un lieu qui a une fonction sociale. Et donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les humains sont utiles, et donc, On a mené notamment nous une étude qui s'appelle le X-Index, qui mesure les éléments qui sont les plus importants pour les gens dans l'expérience qu'ils vivent en tant que clients. Et pour eux, la relation humaine demeure le facteur déterminant d'une expérience réussie, que ce soit par l'écoute et l'efficacité du personnel ou pour la capacité des vendeurs à comprendre leurs besoins, à répondre à leurs demandes et à les faire se sentir uniques. Donc, le magasin de demain sera-t-il sans humain ? La réponse est probablement tout autant oui que non, avec un humain qui a un rôle différent.
Le moment est venu de présenter notre invité qui n'est autre que l'immense William Heldin. Bonjour William.
Bonjour, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Une merci. Première réaction sur ce qui précède.
Alors le jingle, très très drôle, j'ai adoré la mise en scène, merci, ça fait un peu peur à des moments et c'est vrai que pour le coup je suis assez d'accord avec la première analyse du fait que ça devient possible et sur quelques territoires c'est déjà en cours, quelle technologie et pourquoi. On va l'expliquer sûrement juste après. Sur le débat de l'humain, il faut se placer de manière spatio-temporelle à un endroit et le définir. On va choisir le nôtre. Donc aujourd'hui, en effet, il y a une vraie problématique de savoir qu'est-ce qu'on va faire des humains qui sont dans les, sur les caisses, etc. Après, on peut prendre le débat aussi sur la chaîne bêtement en fait de l'humanité où qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a fait quand même comme société pour se retrouver derrière des caisses, nous humains avec autant de valeurs et autant d'émotions et simplement passer des petits produits derrière des scans et qui fassent bip bip toute la journée.
Il est déjà à fond, c'est William Heldin qui est avec nous, mais il y a encore quelques personnes qui ne connaissent pas William Heldin. Non mais c'est pas grave, Gogolita, qui est William Heldin?
Après une expérience d'animateur radio, William monte sa première entreprise à 19 ans en ouvrant un des premiers points de vente dédiés aux anti-radars. Willy s'associe ensuite à Fabien Pierlot pour créer Coyote System, licorne française des années 2000. Sa vision et sa passion des nouvelles technologies amènent William Heldin à fonder 22, un studio d'innovation dans la VR, l'AR, l'IA et les sciences.
On se demande d'où sort cet Heldin, mais enfin c'est pas grave.
C'est pas à l'anglaise.
Mais 22, c'était quand même un groupe de musique avant d'être un...
exact.
Une entreprise.
Ouais, exactement.
William... je vous laisse entre les mains de Félix, qui nous propose son traditionnel historique, plutôt bon marché.
L'histoire passionnante et palpitante du bon marché.
Et oui, l'histoire n'est pas là pour nous rappeler que tout n'est qu'éternel recommencement, mais que le progrès, aussi novateur qu'il puisse paraître, s'enracine toujours dans des expériences humaines où l'intelligence n'avait rien d'artificiel. Alors concernant le commerce, si les magasins sans vendeurs, sans humains semblent être la promesse de notre époque, la quatrième révolution industrielle, il se trouve qu'au début de la seconde révolution industrielle, qu'un homme pose les bases de tout notre édifice de consommation moderne.
Né à Bélem, dans l'Orne, et fils de chapelier, Aristide Boussicot débarque dans Paris en 1829, donc pendant le Second Empire.
Vendeur ambulant puis chef de rayon dans une petite épicerie qui fait faillite, il rencontre les frères Vidot qui viennent d'ouvrir une mercerie à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac. Et le nom de cette mercerie, c'est
Au Bon Marché.
Aristide, dont le sang percheron baigne dans l'expérience de la vente depuis sa plus tendre enfance, a alors une illumination. Ce lieu, le Bon Marché, peut devenir le magasin du futur. L'antre de la consommation où le client ne vient plus seulement faire ses courses, mais vient vivre une expérience unique. Inspiré par on ne sait quelle vision anticipatrice, il définit les règles de la consommation moderne. Les prix sont fixés, alors que jusqu'alors il fallait marchander. Les étalages sont en libre service, ou comme on dit à l'époque, en libre toucher. Et donc on évite au client l'intermédiaire du vendeur, et on raccourcit la distance entre désir et objet. Et puis pour multiplier les tentations des acheteurs, les marchandises sont disposées à profusion sur d'immenses comptoirs dans un décor quasi théâtral imaginé par Gustave Eiffel quand même. Les vendeurs deviennent des vendeuses puisqu'Aristide féminise son équipe avec le sentiment que la bourgeoise sera la reine des consommatrices et qu'elle est en train de s'émanciper d'un patriarcat anachronique. Et ces vendeuses n'ont plus des rôles figés, mécaniques, puisque le client peut se servir seul. Elles deviennent alors des conseillères, des accompagnatrices, voire des complices que l'on aime recroiser à chaque nouveau passage au Bon Marché. Bref, il y a beaucoup d'Aristide Boussicot dans ce dont on parle aujourd'hui, à un détail près. Aristide était inspiré du socialisme chrétien et devient le premier à fermer son commerce le dimanche pour offrir un jour de repos. Il devient le premier à prévoir des chambres pour ses vendeuses, une assistance médicale, des congés payés, des formations continues en mode cours du soir, une caisse de prévoyance, un fonds de retraite et un intéressement aux bénéfices. Et c'est pour cela que le roman de Zola, consacré au Bon Marché, s'intitule « Au bonheur des dames ». Alors ma question est la suivante, William, si ce bon vieil Émile pouvait reprendre la plume aujourd'hui et écrire sur ses magasins sans humains, à qui promettrait-il le bonheur ?
remettre l'émotion et l'humain au cœur. C'était ça, c'est on arrivait, on voyait des produits, on parlait aux gens, c'était vachement en fait finalement interactif. Finalement l'acte d'achat n'était qu'une conséquence d'une relation ou d'une envie. Et aujourd'hui, bah c'est un peu la même chose. Régis Schultz, qui est le patron de Monoprix je crois, dit que 30% de ce qu'il fait c'est pour freiner le client. C'est-à-dire des caisses, des endroits où on s'arrête, où on vient de checker des choses. Donc aujourd'hui, pour correspondre à une société dite moderne, on a placé tout un tas de curseurs qui permet de maîtriser en fait ce qu'on appelle le retail sur un nouveau modèle de société. C'était beaucoup plus cool avant, les marchés, c'était beaucoup plus cool avant, les endroits où on pouvait rentrer, se balader, faire plein de choses. Et alors là où il est fort Aristide, c'est le côté émotionnel sur l'humain. Vous voulez bien conseiller mes clients, eh ben je vais vous mettre bien, je vais vous faire une petite chambre, je vais vous faire progresser, je vais faire un endroit qui donne envie d'aller tous les matins. Et donc du coup pour le coup je pense que c'est un visionnaire et c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup de bon sens. Donc ce qu'il faudrait écrire aujourd'hui et ce qu'il faudrait dire d'écrire à Émile, c'est finalement pas l'architecture de la société et tout ce qu'on a construit autour, mais qui on est nous et qu'est-ce qu'on veut et notre bon sens.
Mais alors comment rendre compatible justement cette idée d'expérience, de plaisir avec la disparition de l'humain dans les magasins?
Bah, on parle de disparition de l'humain si on prend un parti. Moi je parle pas de disparition de l'humain. Je parle de disparition de la friction qui est due à ce modèle de société, c'est-à-dire qu'on a des cartes bleues, il faut payer, faut scanner tous les produits parce que ces produits-là correspondent à un stock, ce stock faut le gérer pour commander, pour avoir les approvisionnements nécessaires à répondre à la demande qui est sizée sur chaque magasin. Donc du coup, en fait, ce modèle se mord la queue aujourd'hui et on essaye justement de l'éclater pour revenir à des choses qui sont beaucoup plus de bon sens, je trouve. Donc enlever l'humain, c'est prendre le parti de décider que le modèle d'après, pour le coup, il est automatique et sans humain. Sur le côté technologique, moi, je suis plutôt « Ah non, on n'enlève pas l'humain. » Par contre, on lui permet d'arrêter de faire bip-bip toute la journée. Et on lui permet de se mettre au milieu, de venir conseiller et pourquoi pas, de temps en temps, si moi, je vais acheter un peu de pinard le samedi soir dans mon Monoprix, bah, j'envoie mes dames ou mes hommes de ce magasin-là voir le producteur de vin, faire des formations sur les différents produits, comprendre un peu mieux ce qu'on vend finalement. Parce que j'ai l'impression que dans le retail, il y a vraiment deux axes. C'est un axe du bio, et ou en tout cas de « je sais ce que je consomme » et toute la traçabilité. Et c'est vachement bien, faut le développer, se servir des technos pour le développer. Et il y a un côté aussi où ça devient plutôt une place des marchés, donc où on réouvre l'humain, où on réouvre la discussion, versus des rayons monotones et tous vraiment pour le coup anxiogènes, avec des caisses à la fin, une dizaine de personnes qui attendent, et finalement, bah, 30% des gens qui disent « j'y vais plus parce que c'est chiant ».
Mais alors vous qui avez visité Amazon Go,
oui,
qui est un peu, comme on le disait, finalement le premier exemple de, oui, ces magasins sans humains, oui, quelle impression ça vous a donné?
Alors, j'ai un point de vue du coup humain et un point de vue technologique. Sur le point de vue humain, ça reste un flagship. C'est le premier, donc vous imaginez bien que Amazon, pour pallier à ce genre de critique entre guillemets, ils ont mis plein d'humains partout qui conseillent et qui connaissent tous les produits. Donc il y a 150 mètres carrés et il y a une personne d'Amazon pour une personne de cliente à chaque fois, et puis ils nous amènent. Donc
ah oui, c'est pas très rentable, oui.
Ouais, voilà, c'est pas un modèle. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure qu'ils étendent à je sais plus combien de centaines ou de milliers de magasins, je me demande avec quel techno. Mais je commence à savoir un petit peu, et donc du coup ils vont changer un peu le modèle de technologie qui est pas scalable aujourd'hui. Et du coup, ça me permet d'arriver aux technologies où finalement, j'ai regardé ça, j'étais au CES quand ils ont fait l'annonce et à Las Vegas, et j'ai regardé cette annonce et j'ai dit « Attends, je prends un avion pour monter voir », parce que le gars qui a réussi à faire via du computer vision, donc de l'intelligence artificielle, derrière des caméras vidéo. Le gars qui a réussi à faire ça, c'est un tueur à gages, parce que techniquement, c'est pas possible encore. Enfin, on connaît un peu, ça fait 3 ans qu'on bosse sur le truc. Et en fait, je suis arrivé et j'ai été dans le premier quart d'heure hyper déçu, parce que finalement c'est un amas de différents capteurs qui permettent finalement, alors je vais dire un cas concret, mais je suis allé acheter ma salade, pour aller acheter ma salade, en effet je suis vu par des caméras, je suis on va dire modélisé par des lidars, c'est des projections de points laser qui permettent de taper sur des matières et de voir en fait les formes qui en ressortent sous ces lasers là. Donc ça vient confirmer ce que voit la vidéo. Ah tiens, un humain. Ah oui, en effet, j'ai les formes d'un humain aussi sur le laser. Et ensuite, au moment où je prends ma petite salade, un petit capteur de poids juste en dessous. Donc en fait, l'algo, c'est quoi? C'est pas du tout de la vision par ordinateur uniquement. C'est de la vision par ordinateur, du scan laser et du bouton poussoir. Donc la vraie prouesse, c'est le moteur de règles, finalement, et la fusion des données qu'il y a eu entre tout ça.
Comment les marques se retrouvent dans ces magasins sans humains, Olivier ?
Évidemment, la question n'est pas de se dire qu'on va vers quelque chose qui soit déshumanisé, mais plutôt de donner un autre rôle. Et il y a déjà pas mal d'exemples qui montrent qu'il y a des tas d'autres rôles à jouer. Alors, évidemment, il y a voilà toute l'expertise sur les produits, c'est ce que tu décris. Voilà, tout d'un coup, c'est quand même sympa d'avoir un caviste plutôt que d'avoir juste un rayon et je suis complètement nul devant. Et même s'il y a des petites étiquettes sur le vin, je n'y connais rien. Voilà, exactement. Mais il y a des choses plus intéressantes encore. Par exemple, des expériences chez Decathlon où les vendeurs tout d'un coup deviennent des coachs. Et en fait, le magasin n'est qu'un prétexte à la transformation en un espace tout simplement d'exercice, enfin, et puis surtout, en fait, on fait des séances de sport. Le magasin devient le lieu de rencontre pour partir faire des runnings autour. Donc, ça devient un lieu, tout simplement, qui me permet de pratiquer le sport. Il y a évidemment le rôle très intéressant qu'a développé Sephora avec ce qu'on appelle les beauty advisors, qui sont là pour maquiller les femmes et qui sont là pour vraiment conseiller de manière précise que le maquillage, c'est très compliqué, n'est-ce pas ?
Sébastien.
J'ai une question pour William, presque en fait par rapport à la technologie justement. Quand tu racontes Amazon Go, on sent bien que c'est extrêmement complexe et donc sans doute extrêmement coûteux, alors que c'est vrai que le mouvement il existe depuis assez longtemps. Si on prend Apple qui est un exemple un peu qu'on cite tout le temps, mais on a débarrassé depuis longtemps les vendeurs Apple quasiment de leur rôle d'encaissement, etc. Ils ont juste un iPhone qui permet d'encaisser directement et basta, il n'y a plus de bip bip, etc. Donc c'est quoi l'intérêt d'investir dans toutes ces technologies-là alors qu'on peut assez simplement débarrasser entre guillemets les gens de cette fonction très répétitive où on se dit que l'intelligence humaine est moins sollicitée et d'investir autant d'argent alors qu'on peut le faire plus simplement?
Alors, il y a des questions techniques sur le nombre de produits à scanner. Quand tu vas chez Apple, le panier est de quelques produits, oui. Alors que quand tu vas à Carrefour le samedi, je te laisse compter. Donc, il y a vraiment...
J'ai jamais dit ça, Sébastien.
En fait, on essaye de mettre de la transparence dans un modèle industriel de masse quand même. Donc, c'est vraiment le concept d'Apple qui est sur l'exclusivité, qui est sur la relation, qui est sur vraiment toute sa transparence de toutes les frictions sociétales, on va dire. Eh ben, pour le transmettre dans la grande distribution, t'es obligé d'automatiser les choses.
Et puis, pour revenir à l'intelligence artificielle, là où ce sur quoi travaille William, c'est aussi beaucoup là où les caméras vont aider sur la satisfaction client. C'est la reconnaissance faciale, de voir la tête que fait le client devant un produit. J'ai vu une vidéo où tu en parlais. Là, c'est des technologies très intéressantes pour la marque, enfin pour le commerçant. Il y a ça, puis il y a le stock.
C'est le problème de qui va prendre les rênes de la technologie en premier / celui qui a de l'argent. Souvent, le marketing est un drive de monnaie où, en tout cas, on apprend à connaître le client pour mieux vendre. Et les premiers outils qui sont dépensés aujourd'hui dans les technologies, heureusement que c'est plus la guerre ou un peu moins, mais ça reste la consommation parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, en effet, il y a malheureusement des travers sur des tracking d'émotions vis-à-vis des clients où on fait du eye tracking, que regardent les clients, à quel moment, combien de temps, ah tiens, il s'est arrêté sur lui, pourquoi, et ensuite il l'a pas pris, mais il a lu l'étiquette.
Et puis même, quelle tête il a fait, quelle émotion il a ressenti.
Exactement. Mais honnêtement, c'est pas le cheval de bataille des marques aujourd'hui avec qui on bosse. Leur objectif, c'est vraiment de fluidifier plutôt que d'hyper-analyser dans un temps.
Il y a déjà un magasin à Paris où on peut rentrer juste avec son téléphone portable ouvert toute la nuit et en ressortir. Il y a un casino sur les champs, je crois.
Ouais, ça existe déjà. On est en train de faire travailler dans ce magasin casino, justement, l'IA pour la full automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez, vous scannez via votre application tous les produits que vous prenez, vous sortez.
Ouais, il faut quand même faire le geste du scan aujourd'hui.
C'est ça.
On n'est pas du tout encore dans l'étape suivante.
Pas du tout, mais sauf que derrière, bah, si vous allez dans ce magasin, vous voyez qu'il y a une centaine de caméras sur le plafond. Le magasin fait 300 mètres carrés. Il y a nos algorithmes d'intelligence artificielle qui sont en ce moment juste derrière ces caméras et qui comptent le nombre de produits que les gens prennent pour pouvoir, au moment où le client sort, faire un rapprochement entre le nombre de produits qu'il a scanné et le nombre de produits que l'intelligence artificielle a vu, ce qui permet de lancer des contrôles inopinés, entre guillemets. Donc quelqu'un qui a 8 produits dans son panier applicatif et qui en a pris finalement 16, il va y avoir un contrôle sur cette personne-là. Ça, c'est le comptage. Et ensuite, on fait travailler l'IA sur la reconnaissance des produits et l'apprentissage des 10 000 produits qui sont dans ce magasin.
J'ai lu une interview d'un patron d'une société chinoise qui fait ce genre de choses, qui dit que le fait d'équiper les magasins d'intelligence artificielle et notamment computer vision, etc., fait aussi baisser le taux de vol.
Ouais.
Par rapport à des magasins tenus par des humains.
C'est un Chinois qui a dit ça?
Ouais.
Il est balèze. Parce que déjà en Chine, le vol, j'ai du mal à l'imaginer. Parce que si tu voles quelque chose, tu meurs. Et pour le coup, là-bas, c'est vraiment l'endroit où il n'y a pas beaucoup de vols. Mais je pense qu'il y a un effet quand ça sera connu. Je pense qu'il n'a pas tort, de manière mondiale et générale, quand ça sera connu, que ça sera vérifié derrière.
Techniquement, oui. Dans votre travail, qu'est-ce qui est le plus dur en ce moment à résoudre comme problème dans cette marche vers le magasin sans humain? Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes?
Apprendre à l'intelligence artificielle, donc aux réseaux de neurones qui sont derrière, donc aux algorithmes, les produits, ça nécessite beaucoup de photos avec des simulations de luminosité différentes sous tous les angles pour pouvoir reconnaître en fait le produit sous la caméra. Ensuite, c'est la qualité des capteurs qui est quand même difficile en pixels. Ensuite, c'est tous ces apprentissages et la stabilité des algorithmes. Traquer quelqu'un sous plein de caméras, c'est hyper compliqué à cause de la CNIL. Je ne peux pas te suivre à ta face. Donc, j'essaie de trouver d'autres choses qui te réidentifient de caméra en caméra. Donc, en fait, il y a vraiment ce moteur de reconnaissance et tracking des gens, ce moteur de reconnaissance et tracking des objets et apprentissage de tout ça ensemble pour en donner une solution finale.
Mais c'est faisable?
Ouais.
Et ça arrivera quand vraiment la possibilité de se passer des boutons poussoirs à Amazon Go, quoi,
d'être dans notre roadmap, on est entre 6 et 12 mois.
Ah oui.
On pourrait faire ça en 3 mois si on était 100 personnes avec 5 millions de budget.
Avis aux amateurs. oui, moi j'avais une question justement par rapport à la CNIL, c'est les gens qui vivent l'expérience, même si on leur explique que les images ne sont pas conservées, certes ils sont traqués, mais que tout ça reste anonyme, j'imagine que quand même subsiste une petite interrogation sur... Ouais. Mais donc on m'a vu à tel endroit et oui, est-ce que j'ai vraiment envie que tout ce que j'achète soit potentiellement utilisé, même si par ailleurs on sait très bien que les supermarchés connaissent ce que je consomme, mais c'est pas exactement pareil à mon avis quand même psychologiquement de savoir que ça a été filmé.
Ouais,
et donc je me demande si les questions, parce que je suppose que les gens sont interrogés sur l'expérience qu'ils vivent, quelles sont les questions et les inquiétudes les plus importantes qui ressortent?
Alors c'est pas ce phénomène de tracking et d'observation parce qu'ils sont consentants, ils téléchargent l'application, ils mettent la carte bleue derrière et puis il coche la case oui je vais être suivi et traqué. Après c'est un effet waouh encore, c'est-à-dire qu'ils rentrent, ils vivent une expérience qui est complètement différente, donc on est clairement dans une cible client d'early adopter, donc les fans de techno, les fans de tout ça, donc les retours sont pas négatifs là-dessus. Il y aura sûrement des erreurs parce qu'il faut que l'intelligence artificielle se forme, un peu comme nous quand on est, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais un algorithme doit se former, apprendre et prendre en expérience, donc nous on a nos équipes qui sont derrière et qu'ils le règlent en permanence, mais pour l'instant j'ai pas de gros effets déceptifs ou négatifs, au contraire d'ailleurs, ça rassure et ça accélère.
Oui, ben là, il n'y a pas besoin d'être parano pour se poser la question du devenir de tous ces humains qui étaient avant dans les magasins, maintenant sans humains, vendeurs, caissières et tutti quanti. Bon ben ça fait peur quand même, parce que je finis par me demander si l'intelligence artificielle n'est pas en fait en train de travailler pour elle-même avec le projet de se débarrasser de la race humaine, hein, en la rendant inutile, pour commencer.
On est dans la peur, là.
La trouille.
William a le projet secret de se débarrasser des humains.
C'est ça, William, vous-même, vous avez dit dans une conférence qu'on prévoyait 5 à 7 millions de suppressions d'emplois d'ici 2022, je crois.
J'ai dit ça.
Oui.
J'en dis des bêtises. Putain. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. C'est en gros 35% des postes qui vont exister demain n'existent pas aujourd'hui. Et en effet, ce volume-là de personnes qui disparaîtra. Mais c'est logique. En fait, comme celui qui était devant la vache et qui l'a tiré pour labourer le champ à l'époque, comme celui qui faisait plein de choses dans toutes les révolutions industrielles.
William, ce que vous expliquez aussi, c'est que la suppression de ces métiers peu qualifiés ou répétitifs, c'est aussi l'ouverture à une nouvelle dimension de conscience que vous appelez le quotient émotionnel.
Ah oui.
C'est ça. Hein.
Oui. Bah, c'est vrai que, après, c'est pas une fuite en avant parce que j'y crois vraiment. Je pense que ce modèle industriel nous fait beaucoup de griefs aujourd'hui à nous, personnes, à nous, humains. J'entends par là qu'on voit des nouvelles maladies arriver, du burn-out, etc. Je vais vite sur les explications, mais voilà, on voit tout un tas de choses. C'est que ce modèle industriel répond à justement notre société, mais elle a été inventée, elle a été montée pour faire du profit. Avant, ça fonctionnait sur du troc, avant, ça fonctionnait sur de l'amour, avant, ça fonctionnait sur autre chose. Demain, l'émotion peut revenir et l'intellect et le quotient intellectuel aujourd'hui arrive un peu au plafond et n'évolue pas trop, ou en tout cas plus trop. On voit même qu'il a tendance à diminuer, chez nous d'ailleurs. Et par contre, l'émotion est quelque chose qu'on développe par la découverte de notre biologie, en fait.
Ce que tu veux dire, c'est quoi? C'est que on s'achemine vers une nouvelle société où
je pense qu'on
le
est
temps
même
d'émotion
pas...
devient l'occupation principale.
Carrément, et je pense même qu'on n'a même pas la compétence d'en parler et de répondre. Et on est en train de créer des choses à l'intérieur. Il y a des gens qui, par la bonne humeur et la motivation, se soignent de cancer. Il y a des gens qui, à l'intérieur, ressentent des choses de plus en plus différentes. Je me dis qu'on découvre des chromosomes et des neurones un peu partout, justement, même au bout du pied. Des neurones au bout du pied. Ça veut dire qu'il y a de l'interaction, il y a de l'interaction électrique et il y a des messages qui se passent dans nos corps. Pourquoi ça sortirait pas de nos corps, ça irait chez les autres? On parle de télépathie dans nos fantasmes.
Ça y est, on l'a perdu.
Non, parce que c'est très mathématique.
Le magasin.
C'est très mathématique. On est de l'électricité. Et cette électricité, si on arrive à l'interpréter, eh ben, on va pouvoir s'en servir pour communiquer.
Au revoir, William.
Non, mais
sinon, bonjour et toi, au revoir.
Mais le rapport avec juste ce que vous nous dites là, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle va nous libérer de tout ce qui nous empêche de nous concentrer sur ce dont vous venez de parler, en fait.
Alléluia. C'est, pour le coup, en tout cas, si on fait des grandes choses, on est obligé de au moins penser dans ce sens-là. Et pour ne pas être dans la ligne de mire, des fois, il vaut mieux tenir le flingue. Et du coup, en tout cas, c'est le scénario que je préfère envisager et créer. C'est celui de automatiser cette société et de laisser un peu plus de temps à l'humanité.
Mais du coup, on a beaucoup de clients, nous, qui sont distributeurs. Qu'est-ce que ça devient le lieu, en fait? Ça devient ce qu'on voit aux US, un peu des lieux de rassemblement communautaire. Ça devient un lieu d'expérimentation comme le fait Decathlon. Ça devient autre chose que juste du shopping?
Ouais, peut-être de l'échange, une place des marchés. On parlait de ça tout à l'heure. C'est vrai, ça devient plusieurs entrées, donc plusieurs sorties, donc quelque chose d'assez libre. Finalement, on fait tomber les cloisons et les frontières. On le voit sur les phénomènes sociétaux et nos comportements. On n'est plus citoyen forcément d'un pays, mais on est citoyen du monde de plus en plus. On fait tomber les clivages, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression aussi que après le biologique, le physique va le suivre et on va un peu faire tomber les murs. Donc imagine si tous les magasins, un peu, t'en parlais au début, de bon marché. Bon marché, c'est un peu le concept. C'est tout est ouvert, encore dans une grosse boîte, mais tout est quand même ouvert. On se déplace à l'intérieur, on a des expériences, on peut se poser, on peut tout ça. Et c'est le sens de l'histoire aussi en Chine. Ils font de plus en plus de centres commerciaux comme ça.
C'est ouvert, mais très marchand. C'est ça que je veux dire. Ça reste quand même très marchand. Et le bon marché, ça, comme son nom l'indique, c'est quand même hyper marchand. C'est-à-dire que ça va pas vers ce que tu racontes de trucs un peu plus sociétaux, de peut-être que c'est des rassemblements, de gens selon des types de communautés, peut-être que c'est ça qui est une vraie interrogation pour nos clients, j'ai l'impression.
Oui, je comprends. C'est parce qu'il faut qu'ils changent toute leur expérience client, quoi, carrément.
Ce concept du commerce ambiant, qui est l'idée que finalement demain, on n'a même plus besoin des magasins, puisque en fait, si je commence à pouvoir interagir avec mon téléphone ou avec mon device, disons, avec la réalité, ça veut dire que tiens, je trouve que ton pull est chouette, en fait, je vais pouvoir l'acheter. Et donc, en fait, tu vas devenir toi-même le vendeur de ce pull, carrément, malgré toi, parce que tu le portes et que tu es prescripteur de tendance, n'est-ce pas? Et donc, du coup, si on en arrive là, ce qui paraît pas complètement, enfin, j'ai l'impression que techniquement, c'est pas impossible non plus,
se
dire que, en fait, j'ai même plus besoin du magasin pour l'expérience, puisque potentiellement,
tout est achetable.
Et du coup, j'ai plus qu'à le commander sur Amazon.
Carrément.
Et donc, les lieux des marques,
oui, mais là,
ils sont destinés à complètement autre chose.
Oui, mais là, enfin, oui, mais ça se fait pas, mais c'est, en fait, t'as libéré du temps. C'est-à-dire que moi, au lieu de voir ton pull et d'aller... tu l'as acheté où, Olivier, hein? Et j'y vais et je prends du temps. Cet espace-temps, il va être disponible. Au bout d'un moment, on va combler ce temps par d'autres usages. Et ces autres usages, ce sera peut-être ça, le cœur et le centre de l'humain. Finalement, cette société, on en est esclave et on doit aller dans ces centres commerciaux pour aller acheter ce pull que j'aime.
Oui, mais les gens, ils adorent ça, aller au mall.
Aujourd'hui.
Donc, William, pour conclure, les magasins qu'on dit sans humains, mais qui sont plus humains, d'après vous?
Encore plus humains.
Oui, encore plus humains.
Oui.
C'est la bonne voie pour l'avenir.
En tout cas, c'est celle que je choisis. L'automatisation de ces, justement, tous ces freins de société. Et après, s'il faut construire, je vais construire dans ce sens-là.
Eh ben, merci.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est vraiment top. Merci.
Merci.
Merci, au revoir. À bientôt.
Voulez-vous en savoir plus?
It's on a second, the cattle go devils go down. It's red in those wings at on.
C'était
AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.